Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadrap, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Noémie. C'est seulement quelques heures avant sa garde de nuit que nous nous sommes donné rendez-vous à distance afin qu'elle explique tout sur son métier de sage-femme. Et je sais qu'elle l'exerce avec beaucoup de passion. Je souhaitais l'inviter depuis le lancement du podcast et vos nombreuses demandes n'ont qu'encouragé mon envie de l'avoir à mon micro. Bonne écoute. Bonjour Noémie.
Bonjour Marielle.
Merci beaucoup de dégager un petit peu de ton temps juste avant ta garde de nuit de ce soir.
C'est un plaisir.
Bon, bah, génial. Je suis ravie de t'avoir à mon micro et avant de commencer cette petite conversation, je te laisse te présenter.
Alors, je m'appelle Noémie, je suis mariée à Damien depuis 3 ans et nous avons eu une petite fille, Victoire, donc en 2019, qui a maintenant donc 16 mois. Je suis sage-femme de profession depuis un peu plus de 8 ans maintenant déjà, ça passe très vite. Et à côté de ça, voilà, je tiens une chaîne YouTube, Noémie Life MU, que j'ai aussi depuis, ben, je crois, presque depuis mon diplôme. Donc pareil, ça doit faire 7-8 ans aussi, pareil que je tiens ça.
Ah ouais, dis donc, deux carrières qui se sont lancées en simultané.
Exactement. En fait, à la fin de mes études, tu commences à bosser et donc tu t'ennuies un petit peu en fait dans tes jours de repos et voilà, ça a commencé comme ça.
Mais je me souviens avoir vécu vraiment la même chose à me dire, mais en fait, c'est marrant, une fois qu'on commence à travailler, on se retrouve avec le rythme enfin moi c'était l'école d'infirmière et ouais. Je me disais, mais j'ai un temps libre incroyable sur mes jours
pareil.
De repos.
Pareil, mais qu'est-ce que je fais en fait, j'ai pas de cours à réviser, rien. Et donc ça a commencé comme ça. Donc
je mettrai toutes les infos du coup je mettrai un lien vers ta chaîne YouTube etc. ouais. Sous la vidéo pour ceux qui veulent apprendre à te connaître. Moi je t'ai connue de cette façon là et pour être tout à fait honnête avec toi, alors moi j'avais déjà pour projet de te contacter pour te proposer de participer au podcast et j'ai reçu au moins une vingtaine de messages d'abonnés qui te suivent, donc toi et qui me suivent moi, et qui m'ont dit mais ça serait génial que Noémie vienne à ton micro. Donc il y a vraiment une demande importante. Donc je suis ravie de t'avoir à mon micro. Donc Noémie, tu es sage-femme et on va rembobiner un petit peu quelques années en arrière, et je voulais savoir qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite.
Alors pas du tout sage-femme, ça c'était c'est un métier que je connaissais pas du tout. Je l'ai connu vraiment sur le tard en fait, quand j'étais au collège, j'étais plus partie sur être prof d'histoire. Je ne sais pas d'où cette passion venait, certainement par mon prof d'histoire de quatrième, certainement. Après, j'ai un peu abandonné cette idée-là. Au lycée, j'étais dans le milieu, voilà, je voulais une profession en milieu médical, donc infirmière, on avait traversé l'esprit, et puis médecin. Donc, à la fin de mon lycée, je suis partie en fac de médecine, et dans l'idée d'être médecin. Et j'ai découvert, en fait, par le biais de ce concours de médecine, le métier de sage-femme. Donc, je l'ai découvert très, très tard, parce que c'est un métier, même par ma maman, que je n'ai pas entendu parler par l'action, parce que ma maman a 2 césariennes, donc elle me parlait de son gynéco, mais jamais de ses sages-femmes. Je l'ai découvert super tard, et c'était lors d'une réunion d'info à la fac de médecine sur les différents concours qu'on pouvait préparer en première année, avec dentaire, médecin et sage-femme. Et je me suis dit, mais en fait, il est bien ce métier, quoi. C'était un peu, je me souviens encore de cette réunion, un peu comme la révélation, en fait, de dire, mais ça regroupe le côté technique que je recherche dans la médecine, le côté social et avec une population jeune, féminine, qui me correspond assez, en fait. Et j'ai trouvé, ça match avec ce que je veux faire.
Un peu la révélation, ouais, c'est ça.
Exactement, ouais. Mais sur le tard, c'est pas quelque chose que j'ai depuis des années et des années. Je suis pas depuis toute petite, je vais être sage-femme, pas du tout, quoi.
Ok. T'avais des personnes dans ta famille qui évoluaient dans le milieu médical ou des...
Proches, non. Pas du tout non plus. Non, okay. Pas du tout. Et c'est assez... Bon, souvent, je fais ce rapprochement, mais bon, mes parents sont agriculteurs et ma maman travaille en maternité, mais pour l'élevage porcin, donc pas du tout vrai. Mais il y a des similitudes quand même.
Ouais, voilà, des destins croisés quand même.
Exactement, sur des médicaments qu'on utilise pour l'humain comme pour les animaux, des techniques aussi, pareil. Et c'est marrant des fois quand je parle de ça. Ah, mais moi aussi je fais ça. Bon, bref.
C'est intéressant. Donc, il y a quand même des conversations qui sont possibles, des échanges,
oui, un
partage d'expérience.
Voilà, bon, elle n'utilise pas la péridurale, par contre, mais...
Oh là là, ouais. C'est sûr qu'on ne doit pas être au même niveau d'évolution sur ce plan-là.
Mais non, tout ça pour dire que non, je n'ai pas du tout dans la famille de personnes dans le milieu médical.
Ok, donc tu as fait une année de médecine que tu as doublée ou au bout de la première année, tu as accédé directement au
concours ? Non, je l'ai fait en deux fois parce qu'effectivement, donc, le concours de médecine, alors moi je parle pour mon époque, vieille sage-femme que je suis.
Pas si lointaine.
Mais ça a vachement changé, c'est que maintenant en fait le concours, on passe par l'université de médecine, la fac de médecine la première année, mais maintenant il y a une idée de choix, à choisir quel concours on prépare, etc. Donc ça, j'avoue que je suis un peu loin de tout ça, donc... Je suis un peu moins assidue sur ça, mais en tout cas nous on préparait le concours de médecine pour les trois professions, donc médecine, dentaire et sage-femme. Il y avait un seul concours unique, et ensuite en fonction du classement, on avait le droit de choisir si on était mieux classé, plus on avait la possibilité de choisir l'une des trois professions. Et bien souvent, c'était les mieux classés choisissaient médecine. En deuxième, c'était plus sédentaire. Et en troisième, c'était plus sage-femme. Et donc, ma première année, donc, j'étais très, très loin dans le classement. Donc, j'ai redoublé ma première année. Quand j'ai refait ma première année, j'avais une place en dentaire et en sage-femme. Donc, j'ai loupé de peu celui de médecine, mais j'avais une place en dentaire et sage-femme. Et en fait, j'ai choisi sage-femme parce que dentaire, ça m'intéressait pas du tout.
C'était pas dans tes projets.
Pas du tout. Et donc voilà comment ça s'est fait. Et après on part pour 4 ans à l'école de sage-femme.
Est-ce que c'est une formation j'allais employer le mot d'alternance. C'est pas forcément le principe, mais est-ce que ça fonctionne sur le même principe?
Exactement.
La théorie des stages comme ça.
Exactement, effectivement. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ces études, c'est à la fin de quand on a nos diplômes, on est professionnel. On connaît notre métier non pas que par la théorie, mais par la pratique. Et effectivement, on alterne des sessions de cours de 2 semaines. En général, c'était ça, nous, 2 semaines et 3 semaines de stage et ça toute l'année. Je sais que maintenant, ça a changé. Les étudiantes de sage-femme que j'encadre maintenant, elles n'ont plus du tout ce rythme. Là, souvent, c'est plusieurs semaines de cours, une semaine de stage, et puis après, elles ont les stages un petit peu plus condensés. Elles font plus de stages sur la période juillet-août, alors que nous, on en faisait. Voilà, c'est un petit peu changé sur tout ça. Donc, je pense qu'en termes de rapport cours-stage, je pense qu'elles ont un peu moins de stages que nous, mais il n'empêche que c'est toujours le même principe d'alternance des deux. Et moi, je trouve que c'est la formation la meilleure, je trouve, pour apprendre un métier quel qu'il soit. Quoi.
Au niveau des stages, est-ce que les formateurs font l'effort de vous envoyer sur des terrains de stage variés? Est-ce que vous êtes à la fois parfois en maternité, en postpartum, en salle d'accouchement? Voilà, ça varie un peu?
Exactement. Alors, sur la première année, on fait différents services, même qui ne sont pas forcément en lien avec l'obstétrique, la maternité. Moi, j'ai souvenir d'avoir fait des stages en chirurgie plastique, reconstructrice, un stage en cardio. C'était vraiment pour le principe d'apprendre tous les gestes techniques infirmiers, donc les prises de sang, les perfs, les sondes, voilà, qu'on peut apprendre chez tout le monde. Donc, ça permet d'apprendre en plus de différentes choses et avoir à côté de ça, en plus des stages en salle de naissance, en maternité, en consultation, en échographie, on balaye un petit peu tout ce qu'on peut faire en tant que sage-femme, quoi.
D'accord. Est-ce que pendant ces stages, tu as découvert une facette du métier que tu n'avais pas imaginée ou à laquelle tu n'avais pas pensé avant de te lancer dans les études ?
Effectivement, quand on parle sage-femme, on parle forcément salle d'accouchement. On pense vraiment plus à ça. Et c'était tout le côté consultation, suivi de grossesse, que je pensais pas en fait que l'on pouvait faire au tout départ, hein, quand j'ai commencé la formation, l'échographie, tout ça, je pensais que c'était réservé aux gynécologues. Et en fait, pas du tout. En fait, la sage-femme peut complètement suivre une grossesse du début, hein, du test de grossesse positif, à avoir son bébé dans les bras, quoi, juste après l'accouchement, voire même dans le mois qui suit l'accouchement. Donc, c'était plutôt la multitude de compétences où j'ai été étonnée, parce que souvent, effectivement, on se contente de se dire sage-femme égale accouchement. On est vraiment résumé à ça, et vraiment pas du tout, quoi, pas du tout.
Et même le suivi des femmes qu'on appelle nullipares, donc qui n'ont pas d'enfants, c'est quelque chose. Enfin, moi, je l'ai découvert. Il y a quelques années en arrière, j'étais assez surprise. J'ai été suivie par une sage-femme à titre personnel parce que j'habitais dans un véritable désert médical où les gynécologues ne prenaient absolument plus de patientes. Ouais. Et pour moi, ça reste un des meilleurs suivis que j'ai pu avoir. Ouais. Vraiment, j'ai trouvé un contact radicalement différent. Ouais. Et voilà, elle me suivait donc pour le suivi de pilules, contraception, ouais, les frottis, etc.
Ouais, c'est vrai que ça, on a un suivi global et on. Je pense malgré tout qu'on prend un temps que, par exemple, les gynécologues ne vont pas prendre, qu'ils en sont pas compétents, mais eux, enfin, il faut voir le gynécologue comme quelqu'un. Bah là, c'est un médecin qui va suivre vraiment le côté aussi pathologique en fait éventuel des grossesses. Donc tout ce qui concerne la préparation à l'accouchement, la venue de bébé, la préparation à l'arrivée de bébé, j'en veux dire, ils s'en fichent un petit peu. C'est pas leur domaine et c'est normal. Et donc nous, c'est vrai qu'on a un peu cet accompagnement global qui va du côté médical, parce qu'on clairement sur une grossesse dite physiologique où tout va bien, on fait exactement le même suivi médical qu'un médecin, exactement pareil. Mais à côté de ça, on va apporter l'expérience et la discussion autour de la préparation à la naissance, autour de l'arrivée de bébé, autour de l'allaitement par la suite. Et ça, je trouve que ça fait effectivement une prise en charge complète et globale.
Ouais, très très complète. Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors, à la fin de ces études, ça s'est passé comment pour toi une fois que le diplôme était en poche ?
La libération de cette école qui reste néanmoins très... On a une profession, enfin une école, et ça, je le remarque par toutes les étudiantes que je peux encadrer de diverses écoles, pas forcément de la même que la mienne. On est très scolaire en fait, très limite, où tu es à la fac de médecine, tu as eu plein de liberté en disant si tu viens en cours tant mieux, si tu vas pas on s'en fiche, et tu retournes à l'école de sage-femme où c'est très scolaire, où c'est limite voilà, presque comme au collège, où tu dois dire pourquoi tu viens pas, le enfin, bon bref, donc la liberté un peu d'être partie de tout ça, d'être professionnelle, de travailler en autonomie, et c'est vrai que comme je disais, comme à la fin de nos études, on se sent, alors il faut qu'on ait l'expérience, mais le côté, on connaît notre profession, ça fait un petit peu moins peur. Alors, les accouchements, on en a fait déjà plein quand on était étudiante, des gestes techniques, on en a fait plein pendant qu'on était étudiante. Donc quand on arrive professionnel, voilà, on maîtrise, alors on va apprendre encore plus avec l'expérience, mais on maîtrise les choses de base et on a hâte en fait de travailler toute seule. C'est surtout ça. Moi, j'avais hâte.
Et c'est pas un saut dans l'inconnu. Du coup, t'as pas l'impression d'arriver dans un métier que tu maîtrises pas. Enfin, tu maîtrises pas, on s'entend, mais
ouais, non. Bah, d'un point de vue technique, après, il y a tout le côté qu'on apprend. Pas, en fait, qu'on se rend moins compte quand on est étudiante, c'est toute la gestion à côté d'un service ou d'une salle d'accouchement, le côté administratif qui nous tue, on va dire, tous les papiers, tout ça. Les étudiantes, on leur donne pas cette charge de travail, forcément, on leur donne plutôt tout le côté technique, hein, qui est plus intéressant. Mais après, c'est plus la gestion de tout ça, effectivement, qu'on apprend au fur et à mesure de nos gardes et des années d'expérience, quoi.
Et qu'est-ce que t'as fait, alors, comme choix pour ton premier job? Une fois le diplôme en poche.
Alors moi, j'ai eu un poste en fait sur l'été au CHU où j'avais étudié. Donc c'est vrai que ça avait un petit peu ce côté rassurant parce que j'étais dans des locaux que je connaissais. Ça faisait 4 ans que je faisais des stages là-bas, une équipe que je connaissais, des protocoles que je connaissais. Donc c'est un petit peu le côté rassurant de faire suite à ce genre d'établissement plutôt que d'aller carrément dans un autre établissement qu'on ne connaît pas du tout, où il y a le stress un petit peu encore en plus. Donc j'ai eu 3 mois au CHU et puis ensuite je suis partie dans une autre maternité où par contre je n'étais jamais allée en tant que stagiaire, et j'ai fait 4 mois, et depuis 2013, je suis dans la même maternité où je travaille actuellement, où j'avais fait déjà des stages, plusieurs stages en tant qu'étudiante, et c'est vrai que je m'y plais très bien, et c'est vrai que c'est... on passe d'un niveau de CHU, donc... la grosse maternité, le niveau 3 qu'on appelle des maternités, hein. Les maternités sont classées par niveau, donc maternité 1, c'est beaucoup les maternités dites à bas risque, donc où les bébés sont nés non prématurément, où il n'y a pas de grossesse trop pathologique, etc. Le niveau 2, qui est divisé en 2A et 2B, donc c'est surtout par rapport à l'accueil du bébé. En soi, la femme enceinte, elle peut accoucher dans les 3 niveaux, ça ne change rien, mais c'est par l'accueil du bébé, donc par la prise en charge dans les services de néonatologie. Donc en niveau 2, on a un tel niveau de néonates, donc qui demande un certain terme et un certain poids de bébé pour être pris en charge. Et le niveau 3, donc c'est les CHU où là on accueille les bébés, les grands primats, les tout petits pois, etc. Et les
pathologies. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, c'est le terme auquel la maman est arrivée et également le poids du bébé qui influe.
Exactement. Et les pathologies éventuelles qu'un nouveau-né peut avoir. Mais le niveau de maternité en soi, il est surtout surtout classé par rapport au service de néonatologie, plus que de la femme à proprement dit, parce qu'un accouchement, il change pas qu'il soit une femme accouche de la même façon en maternité niveau 1 qu'en maternité niveau 3. Oui. On fait la même chose en termes obstétriques, mais c'est la prise en charge par la suite qui surtout du bébé qui change. Et donc j'ai fait les trois niveaux. Voilà, c'est tout ça pour dire, pour amener à ça ce que je voulais dire.
C'est intéressant de faire le point sur déjà comment ça se déroule.
C'est ça, que j'ai fait. Voilà, le niveau 3 au CHU, après 4 mois en niveau 2, et après la maternité auquel je suis maintenant était niveau 1 au tout départ quand j'ai commencé, et maintenant on est passé en niveau 2.
Au niveau des accouchements, vous avez une autonomie en tant que sage-femme qui est complète jusqu'à un certain stade de complication, de geste, d'intervention de la part de quelqu'un. Comment ça se déroule? Est-ce qu'un accouchement simple, j'ai envie de dire, sans aucune complication, peut être pris en charge de A à Z par une sage-femme?
Complètement. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de pathologie, une sage-femme gère du début jusqu'à la fin. Moi, souvent, ce que je dis aux patientes pendant le travail, si on ne voit pas le médecin, c'est que tout va bien. Il vaut mieux pas le voir. Et c'est effectivement, on travaille en toute autonomie. On va travailler avec le gynécologue de garde quand une pathologie apparaît, quand le travail se déroule pas comme il faut, et là on va demander des avis et une intervention si besoin. Mais si tout va bien, le médecin ne vient pas à côté de nous. On voit le médecin qu'on voit le plus souvent, même dans le cadre d'un accouchement qui se passe bien, c'est l'anesthésiste pour la péridurale.
Bien sûr.
Voilà.
Le sauveur.
Qui est souvent vu comme ça, souvent. Je dis aux femmes, mais pourtant nous aussi. Hein.
Mais on fait ce qu'il faut quand même. Mais c'est
ça.
Mais c'est vrai que c'est un peu le point de départ où on se dit, ah ok, bah maintenant qu'il est là.
Exactement.
Déjà côté douleur, ça devrait mieux se passer.
Ouais, ouais.
Quels sont les autres corps de métier avec lesquels vous évoluez au quotidien? Alors, on a parlé des obstétriciens, des anesthésistes.
Voilà, les anesthésistes. Donc, ça, c'est d'un point de vue médical, enfin, d'un point de vue des médecins, donc les anesthésistes, les gynécologues, les pédiatres aussi, pour le côté bébé. Donc, ça, c'est les trois corps de médecins avec qui on travaille. Et à côté de ça, on a aussi on travaille en collaboration aussi avec les auxiliaires de puériculture, donc qui sont avec nous dans le service maternité et en salle d'accouchement aussi. On travaille en binôme, que ce soit en salle d'accouchement ou dans le service, parce que on ne fait pas un accouchement toute seule. Hein. Elles sont avec nous, c'est notre aide aussi. Donc ça, c'est le binôme, on va dire, le noyau dur du service salle d'accouchement. Et à côté de ça, on a aussi les puéricultrices dans les services de néonates, auxquels on travaille aussi parce que en lien, quand on a des mamans qui sont côté néonates, bah forcément, on travaille avec les puéricultrices. On travaille aussi avec des psychologues, des assistantes sociales, toute l'équipe qu'on appelle d'addictologie. Donc souvent c'est pour le tabac, les infirmiers tabacologues ou autre drogue ou alcool aussi. Donc c'est vraiment varié. On travaille avec une multitude de professions aussi, quoi.
Maintenant j'ai une question très très globale à laquelle tu peux répondre de la façon dont tu souhaites et avec un nombre de réponses illimité. Mais je voudrais savoir quel est le plus difficile pour toi au quotidien en tant que sage-femme.
Donc c'est vraiment la gestion de l'ensemble des tâches qui nous sont allouées, je trouve difficile de gérer en même temps. C'est-à-dire que pris individuellement, les tâches par exemple de s'occuper de l'accouchement, s'occuper de la maman, le côté médical. À côté de ça, on a des tâches aussi administratives. On a le téléphone qui est dans notre poche, qui ne fait que de sonner. On a toutes les urgences qu'on doit gérer en plus à côté. Donc pris individuellement, tout ça, c'est facile, mais c'est l'ensemble de gérer sa journée avec tout ça. Et des fois, on peut être vite débordé. Il faut être partout à la fois et nulle part en même temps. C'est vraiment ça. Je trouve que des fois, c'est un petit peu compliqué de gérer tout. Surtout peut-être dans le fait où je suis sur une petite maternité où on en tant que sage-femme, on est sur plusieurs postes en même temps, alors que quand je compare au CHU, par exemple, où j'ai pu travailler, chaque sage-femme a un poste bien précis. Si je prends exemple une sage-femme en niveau 3 en salle d'accouchement, elle ne fait que elle accueille que les dames en vraiment à 3 cm début de travail et elles font l'accouchement jusqu'au bout d'accouchement. Nous, on va accueillir la dame avec est-ce qu'on la met en travail ou pas, on sait pas, les déclenchements on va les gérer, les services les consultations d'urgence, le travail. Donc c'est un petit peu ça qui est difficile, je trouve, des fois de gérer tout en même temps. Aussi un manque de reconnaissance de nos directions, hein, proprement dit des hôpitaux, des gens qui peuvent travailler aussi avec nous et de la population. D'un point de vue de la population lambda, notre profession est peu connue et peu reconnue par nos compétences et donc des fois c'est vrai que c'est un peu ça que je trouve qui me manque pour moi. Après peut-être que c'est un sentiment qui n'est pas partagé par toutes mes collègues sages-femmes, mais c'est un peu ce manque de reconnaissance de nos professions parce qu'on nous donne tellement de compétences, on a évolué, hein, y a des choses que maintenant en termes de sages-femmes on peut faire qu'il y a 10 ans on n'avait pas le droit de faire.
Oui, c'est ce que j'allais te demander, le droit de prescription par exemple, c'est des choses qui étaient impensables il y a quelques années en arrière puis qui heureusement avancent.
Voilà, alors le droit de prescription on l'a depuis plusieurs années, mais aussi tout le suivi gynécologique de prévention, le suivi contraception, la participation aussi aux interruptions volontaires de grossesse, tout ça il y a quelques années c'était pas quelque chose qu'une sage-femme pouvait faire seule entre guillemets en autonomie. Maintenant voilà, c'est des compétences auxquelles on nous a donné et c'est très bien. Mais à côté de ça, j'ai pas l'impression que ce soit franchement reconnu par nos compétences. Hein. On est un peu, comme je disais tout à l'heure, limité juste à la phase de l'accouchement, alors que pas du tout. C'est vraiment ça. Peut-être aussi, hein, comme je disais, par la méconnaissance. Hein, peut-être que le grand public ne connaît pas vraiment le métier de sage-femme et donc on fait en sorte de le faire connaître aussi.
C'est sûr. Et même au niveau du salaire, j'imagine, les revalorisations salariales, enfin, ça fait partie des grands sujets dont on entend parler, mais à juste titre, parce que ces compétences, elles évoluent, puis à côté de ça, le salaire ne suit pas.
Exactement, exactement. Et surtout, moi, quand je vois certaines de mes collègues qui commencent, qui sont tout début de carrière, qui ont un salaire par rapport aux compétences et aux responsabilités que l'on a, des fois, c'est arrivé quand elles comparent, voilà, pour la petite anecdote, je me souviens d'une collègue en tout début de carrière, donc il y avait un tel salaire, et elle comparait sa fiche de paye avec une ASH, hein, un agent de service hospitalier qui, elle, est en fin de carrière, donc on compare ce qui est comparable, effectivement, mais et elle gagnait moins que la ASH en fin de carrière. Alors, non pas que la SH était trop payée, c'est pas du tout ça le problème.
Pas du tout,
c'est
bien
en
sûr.
Fait, la sage-femme en bas de l'échelon, voilà, c'est un petit peu quand on se dit par rapport aux compétences et aux responsabilités que l'on a, c'est vrai qu'on a aussi ce manque de reconnaissance qui est un petit peu revalorisation salariale qui est un petit peu moyenne, mais ça évolue, hein, ça évolue quand même, hein, depuis chaque année, mais il manque un petit peu ça aussi, quoi.
Il manque quelque chose. Est-ce que toi, de ton côté, alors à l'heure actuelle ou plus tard, est-ce que tu envisages une évolution de carrière, changer complètement de service, de lieu d'exercice ? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses ?
Pour le moment, non. Je suis bien en maternité. Je ne vois pas. Alors, il y a différents modes d'exercice, hein, pour une sage-femme. Le libéral, les services de PMI, ça. Et il y a aussi l'enseignement, hein, en école de sage-femme. Je pense ne rien oublier. Mais c'est pas forcément des carrières qui m'intéressent. Moi, je suis bien en maternité. Pour le moment, je me vois que là. Peut-être que dans 10-15 ans, je me dirais non, je vais être en libéral. Je pense que des collègues sages-femmes qui sont partis en libéral étaient hospitalières au départ, et je pense qu'il y a 10-15 ans, ce serait pas dit qu'elles partiraient en libéral. Donc, je suis pas fermée, mais là, actuellement, non, je suis bien dans mon exercice à la maternité, à l'hôpital, quoi.
Ouais, c'est la beauté du métier aussi, de pouvoir se dire un jour, je change d'endroit, je redémarre une nouvelle histoire ailleurs.
Oui, exactement. Ouais,
c'est agréable de savoir que c'est possible.
Oui, qu'il y a possibilité de changer quand on n'en peut plus de l'hôpital, quand on n'en peut plus de la structure hospitalière, quand on n'en peut plus du rythme aussi hospitalier.
Exactement.
Parce que c'est des gardes, donc nous on travaille en 12 heures. de jour, de nuit, on alterne en fait jour et nuit. Donc c'est vrai que bon, il y a un moment donné, il y a certaines sages-femmes qui disent stop en fait, elles veulent avoir un rythme un peu plus classique parce que après quand on avance des fois avec l'âge, on n'arrive plus à dormir correctement. Moi j'ai des collègues entre deux nuits qui dorment mal et donc c'est compliqué aussi ce
rythme. La fatigue qui se cumule, c'est sûr. Ouais. Est-ce que c'est un roulement qui est fixe, qui se répète, une trame de planning qui se répète ou alors au contraire chaque mois votre planning change radicalement?
Donc nous on fonctionne, en tout cas dans la maternité dans lequel je travaille, on fonctionne sur un planning de 13 semaines, c'est-à-dire qu'on a un roulement de 13 semaines de base et puis après qui est déroulé sur
cette
année, voilà. Après, effectivement, il y a des changements en fonction des phases de vacances, etc. Donc là, on peut changer. Et on alterne jour et nuit. Alors souvent, la personne qui fait nos plannings essaye de nous condenser, c'est-à-dire quand on est de jour, nous faire quelques semaines de jour, quelques semaines de nuit, mais ça peut arriver sur une même semaine, on peut faire début de semaine de jour, fin de semaine de nuit, ça peut,
oh là là,
ça peut aussi arriver.
C'est dur ça.
Ouais, c'est vrai que notre collègue qui fait les plannings essaye quand même de pas trop faire ça, des fois on n'a pas trop le choix en fonction du planning qu'on doit organiser, mais c'est vrai de cette alternance des fois est pas forcément simple. Parce que c'est pas le rythme très physiologique, hein,
c'est sûr.
Ça, c'est propre à notre maternité, parce que dans les plus gros services, les plus grosses maternités type CHU, les sages-femmes, elles sont sur leur planning pendant plusieurs mois dans le même service. Donc, elles font 5-6 mois de salle d'accouchement, 6 mois de suite de couche, etc. Nous, sur une même semaine, on peut changer. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, parce que on peut très bien, en début de semaine, accoucher une dame, et fin de semaine, on est en suite de couche, et on la revoit. Enfin, ça fait vraiment un suivi.
La continuité du soin, quoi. C'est
exactement.
Génial.
On revoit les gens et tout, alors que sur des grosses matières, une fois qu'elles partent de salle d'accouchement, on les revoit plus, quoi, clairement. Donc ça, moi, c'est ça que je trouve super intéressant. Et puis au moins, il n'y a pas de routine, quoi. On se dit pas, je suis 6 mois en salle d'accouchement. Même si j'aime la salle d'accouchement, moi, en faire 6 mois, ça me fatiguerait, en fait, parce que ça reste un rythme qui est fatigant, qui est stressant d'être en salle d'accouchement. Et des fois, d'être en suite de couche et de parler plus de l'après-accouchement, de l'allaitement et des bébés, des fois, ça fait un équilibre en fait, pour tenir sur la longueur de ce métier, quoi.
Sur votre journée, vous vous occupez autant des mamans que de leurs bébés, ou comment ça se déroule le partage entre ce que vous faites sur la maman, ce que vous faites sur le bébé?
Alors en suite de couche surtout, parce que bon, en salle d'accouchement,
oui, en salle d'accouchement, oui.
C'est la maman. Mais en suite de couche, c'est vrai que on s'occupe majoritairement plutôt de la maman. Alors même si on considère le bébé aussi, mais tous les soins de nursing, les bains, les soins de cordon, etc., etc., toutes les choses comme ça, les soins de nursing à proprement dit, sont faits par les auxiliaires de puériculture. C'est elle qui gère ça. Nous, on s'occupe vraiment du côté, pour le bébé, on s'occupe vraiment du côté médical du bébé, donc les examens cliniques, les examens paracliniques, donc les prises de sang des bébés, si on doit leur donner des médicaments. Ça, c'est plutôt sous prescription du pédiatre aussi en plus. Ça, c'est plus notre métier par rapport à ce bébé. Mais les soins de cocooning, c'est pas nous qui les faisons, même si beaucoup pensent que quand tu travailles en maternité, t'es avec les bébés et tu fais des câlins aux bébés, mais pas du tout. C'est pas du tout ça notre travail. Et on s'occupe, ouais, plus de la maman, mais aussi de l'allaitement. Donc, indirectement, on s'occupe du bébé aussi de l'allaitement, ou de l'allaitement aussi au biberon, hein. Mais souvent à tort, on pense qu'on s'occupe beaucoup des bébés et pas tant que ça. Et souvent quand j'ai des jeunes filles qui demandent des infos sur le métier de sage-femme parce qu'elles veulent s'occuper des bébés, je leur dis alors clairement c'est pas ce métier qu'il faut faire pour s'occuper des bébés.
Et oui, j'allais te demander du coup la différence entre, alors, auxiliaire puériculture, je pense que c'est assez clair, les responsabilités sont pas les mêmes, puis comme tu me dis, le rôle est davantage centré sur le bébé. Il y a un autre métier dans le domaine de la maternité qui est assez connu, c'est le métier d'infirmière puéricultrice. Est-ce que tu peux expliquer brièvement vraiment la différence entre ces deux métiers, entre la sage-femme et l'infirmière puéricultrice?
Alors l'infirmière puéricultrice, elle a de base, donc un diplôme d'infirmière, et ensuite elle s'est spécialisée en puériculture. Donc c'est, si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas, il me semble que c'est 2 ans de spécialisation. où là, ça va être vraiment une spécialisation sur l'enfant. Donc, l'enfant de sa naissance jusqu'à 18 ans. Hein. C'est pas uniquement l'enfant et le bébé et la néonate. Elles peuvent être aussi dans le service de pédiatrie et de grands enfants, ce qu'on appelle aussi. Donc, ça reste de base une spécialisation d'infirmière. Donc, c'est un peu, entre guillemets, le même... C'est le métier d'infirmière spécialisée pour les enfants. Par rapport à sage-femme, ce qui est différent, nous, on est une profession médicale, donc à compétences définies. La profession d'infirmière est une profession paramédicale. Une infirmière n'a pas le droit de prescription, par exemple, comparé aux sages-femmes, même pour des médicaments très classiques. Si on prend le paracétamol, par exemple, une sage-femme, on peut le donner à une patiente sans demander une prescription d'un médecin. À l'inverse, une infirmière est obligée d'avoir une prescription. Voilà, c'est des choses comme ça, c'est pas le même statut, hein, comme je disais, médical, paramédical, et les responsabilités sont un petit peu différentes aussi. Et on fait pas le même métier, hein. Les puéricultrices s'occupent des bébés, des enfants, notamment nous, si on compare à la maternité, elle travaille dans les services de néonatologie, donc c'est sur des enfants qui ont des pathologies ou une prématurité ou voilà, diverses choses, quoi.
Donc si t'as quelqu'un qui vient vers toi qui dit je voudrais me lancer dans des études, mais moi je suis plus attirée par l'aspect bébé, enfant, etc., tu lui conseillerais davantage du coup d'aller vers une formation d'infirmière qui se spécialise en puériculture derrière?
Exactement. Si c'est vraiment de se dire je veux travailler avec les enfants, avec les bébés, avec les enfants, faire du soin à l'enfant, c'est effectivement puéricultrice ou auxiliaire de puériculture, mais c'est pas sage-femme.
C'est pas sage-femme. Ouais. C'est bon à savoir parce que je pense que l'imaginaire collectif pense que vous êtes, à commencer par moi, c'est pas un métier que je connais parfaitement. On peut s'imaginer que vous êtes à la fois voilà 50-50 avec les mamans et leurs bébés. Donc
on s'occupe des bébés aussi, mais c'est pas enfin, moi, je trouve que par rapport à tout le champ de compétences qu'on a, c'est pas du tout ça la majorité, en fait. Où on va s'occuper plus de l'enfant, c'est comme je disais, sur des soins techniques auprès du bébé ou dans le cadre de l'alimentation, de l'allaitement. Mais sinon, pas spécialement. On est plus sur la maman quand même à s'occuper. Et de la femme en général, si on parle plus du côté gynécologique, prévention, contraception, quoi.
Alors là, on va sortir un peu du métier de sage-femme, voilà, tout ce qu'on vient de raconter. Si tu devais donner un conseil, par exemple, à une maman qui nous écoute, ou une future maman qui nous écoute plutôt, quel conseil tu lui donnerais pour appréhender au mieux son séjour à la maternité? Quelque chose peut-être qui surprend les patientes ou voilà, le meilleur conseil que tu puisses donner pour un accouchement et puis des suites de couches sereines. Un ou plusieurs conseils d'ailleurs.
Ouais, alors il y en a tellement parce que ça dépend sur quel thème on aborde. Mais c'est de chercher un maximum d'informations, en tout cas pendant sa grossesse, de s'informer sur tout ce qui peut nous intéresser ou nous poser question en fait pendant la grossesse ou sur l'accouchement, et ne pas hésiter à demander aux professionnels. Moi, souvent, c'est ce que je dis aux mamans. Si vous me dites pas ce que vous voulez, je peux pas le deviner. Et parce que des fois, on peut avoir l'impression que certaines hésitent à dire, pour l'accouchement, par exemple, je voudrais ça ou je voudrais essayer ça, etc. Et au final, si moi, vous ne le dites pas, je peux pas lire dans votre tête. Et des fois, ça peut être mal vécu, en fait, parce qu'on leur a pas proposé ci ou ça. Mais des fois, on peut pas, on peut pas deviner. Donc moi, ce que j'en dis, n'hésitez pas à demander. Après, on discute. C'est tout l'intérêt. On discute. La sage-femme, elle vous dit si oui c'est possible ou non c'est pas possible en fonction de la situation. Et pour vivre au mieux et pas rester avec des regrets ou et qui peuvent être mal vécus par la suite, même quand ce que je conseille aux dames quand les accouchements se passent pas comme elles l'avaient imaginé. Des fois, d'en reparler aussi a posteriori, parce que on peut avoir l'impression que ça a été une catastrophe en tant que patiente, et que nous, en tant que professionnels, on se dit oui, ça n'a pas été le truc physiologique à 100%, mais c'est pas cata. Et les femmes peuvent le vivre différemment, et d'en parler a posteriori, on pose les choses, et comme je disais, on part pas avec des mauvaises idées ou avec des regrets, et de mal vivre les choses, alors que des fois il n'y a pas lieu de mal vivre les choses. Donc vraiment de discuter, que ce soit pendant la grossesse, de poser des questions, chercher des infos, se préparer aussi, se préparer à l'accouchement, parce que beaucoup de femmes on prennent peut-être pas ce temps pour se préparer à l'accouchement, et on le voit bien. on le voit bien en salle d'accouchement. Nous, on a remarqué une différence pendant le confinement, le premier confinement, où beaucoup de cours de prépa ont été annulés. Et moi, je trouvais ouais que les femmes étaient moins préparées à ce qui les attendait. Ouais, on s'est fait la remarque avec des collègues sur la gestion de la douleur, la gestion du stress. Forcément, quand t'as pas eu cours de prépa, il y a peut-être des choses qui t'échappent.
Et une période comme ça, c'est sûr que ça devait arriver dans un autre contexte.
Ouais. Et c'est vrai que les cours de prépa, ils sont divers et variés. Mais moi, je trouve ça, il faut se préparer. On vient pas en salle d'accouchement comme ça. Sans s'être informé et sans s'être préparé. C'est important de se préparer psychologiquement parce que, comme je dis à beaucoup de femmes, beaucoup de choses se passent dans la tête. Et la gestion de la douleur, la gestion du stress, c'est votre cerveau qui va gérer. Donc, des fois, voilà, de s'être préparé, c'est important pour mieux gérer la suite, quoi.
Ouais, puis il y a une partie des patientes aussi qui disent, oh, mais après tout, les femmes, elles font ça depuis des millénaires. Alors, oui, mais en même temps, enfin, vraiment, autant avoir toutes les armes pour se préparer à tout ça, quoi.
Ouais, il faut pas se faire un schéma de comment ça va se passer. Parce que, en général, quand on veut, ça va, je vais faire ci, je vais faire ça, je veux ci, je veux ça, ça se passe jamais comme on a envie. Donc, il faut avoir un maximum d'infos, savoir toutes les possibilités, sans se mettre dans des cases, en fait. Je trouve que c'est
tout important. Envisager, tout imaginer, et pas se projeter dans quelque chose de tout fait, tout prêt.
Exactement, parce que ça se passera rarement comme on l'a prévu. Et justement, quand on imagine trop les choses, c'est au risque de mal le vivre et que ce soit un mauvais souvenir. Et c'est pas du tout l'idée, quoi.
Qu'est-ce que ça a changé pour toi, du coup, de devenir maman?
Maintenant, je comprends mieux certaines choses, forcément, même si c'est pas parce que t'es pas maman en étant sage-femme que t'es une mauvaise sage-femme, c'est pas du tout ça, mais ça apporte de l'expérience. Moi, par exemple, j'ai vécu un accouchement avec un très long déclenchement, donc les déclenchements, je connais. Maintenant, les patientes qui sont déclenchées, quand elles me disent qu'elles trouvent ça long, je leur explique que quand on dit quelques heures, je leur explique, moi, ça a duré 3 jours, donc je comprends que ça a duré 3 jours. Donc je les encourage, en fait, je leur dis non, justement, enfin, c'est plus pour les motiver, voilà, dans ce sens-là, leur faire voir aussi que la contraction dans un déclenchement, c'est quelque chose de positif, justement, on est contente d'avoir des contractions, bon, même s'il y en a qui me rigolent au nez en disant, mais ça va pas, quoi, complètement.
Mais elle est folle, celle-là.
Mais c'est ça, quand elle me dit, non, mais j'ai des contractions qui font mal, et que t'as sa femme qui s'exclame, mais c'est super.
Comment ça?
Et donc elles ont l'impression qu'on n'est pas sympa, alors que pas du tout. Moi, je leur dis justement, c'est dans le but de les motiver, de leur dire que c'est cool, quoi.
Ouais, on va dans le bon sens.
Exactement. Et leur dire que c'est positif pour leur bébé, voilà, de voir quelque chose dans le bon sens, quoi. Et le fait d'être maman, ça m'a apporté de l'expérience. Mon discours maintenant, en étant maman, est plus nuancé parce que j'ai l'expérience à côté de ça. Si on parle aussi de l'allaitement, maintenant ça fait 16 mois que j'allaite Victoire, donc forcément cette expérience-là m'apporte auprès des femmes quand elles ont des questions sur l'allaitement au long cours. Moi, des choses que je connaissais pas avant d'être maman, je connaissais l'allaitement, mais tout le côté pratico-pratique de l'allaitement, ça m'était un petit peu inconnu, et maintenant je connais, et donc je transmets ça, et ça, je trouve ça vachement intéressant, en fait, de parler de ce qu'on connaît, et ça apporte un peu plus de crédit en plus à ce que tu dis, quoi.
Est-ce que t'as accouché dans la maternité dans laquelle tu travailles?
Oui, ouais.
Ah ouais.
Et j'ai adoré.
C'est vrai? C'était à la fois, j'imagine, rassurant et puis peut-être un peu stressant aussi de se dire que c'était tes collègues qui allaient s'occuper de toi ou...
Je me suis pas posé de question de savoir où j'allais accoucher. Est-ce que je prenais ma maternité ou est-ce que j'allais ailleurs? Je serais allée ailleurs dans un niveau 3 si ma grossesse le demandait, en fait, si c'était une raison médicale. Mais je me voyais accoucher dans ma maternité avec mes collègues comme à la maison, quoi. En gros, c'était ça. Moi, j'ai vraiment apprécié mon séjour, mon accouchement, parce que on est avec les personnes avec qui on travaille tous les jours, même s'il y a ce côté où elles rentrent dans ton intimité, chose que tu partages pas au travail quotidiennement, c'est sûr, mais j'étais suffisamment à l'aise avec elles pour vivre ça avec elles, et j'étais rassurée, en fait, vraiment de connaître les choses, de connaître l'équipe, de connaître les locaux. Ouais, comme je dis, comme à la maison, quoi.
Ça élimine aussi une quantité d'inconnus, de voilà, c'est partir un peu en terrain, ouais, en terrain connu, c'est quand même agréable sur ce côté-là.
Ouais, exactement. Ouais. Le fait de tout savoir, tout l'attrait, enfin tous les côtés de l'accouchement, moi, ça m'a rassurée aussi quelque part parce que justement, j'avais ce côté où je maîtrisais, malgré tout, quand les choses avancent dans ton travail, quand c'est toi la patiente. Malgré tout, t'as ton œil de sage-femme et tu sais ce qui t'attend.
Tu peux pas t'empêcher de regarder la perf, le truc.
Exactement, tu regardes le monito, bébé va bien et tout. Tu regardes quand ta collègue te dit t'es à telle dilatation. Là, tu dis bon, va falloir que ça avance parce que sinon ça sent la césar. Ou à l'inverse, non, c'est cool, ça avance. Forcément, tu analyses comme une maman. Je me souviens même quand à l'accouchement. Quand le bébé, j'attendais que mon bébé descende dans le bassin, je sentais bien que Victoire, elle descendait, mais je me disais, elle descend pas assez, je sens que il manque quelque chose. Même si j'avais jamais ressenti ça, mais je me disais, faut que ce soit certainement plus fort, quoi. Et je dis à Damien, avant même qu'on s'installe, mes collègues étaient pas encore arrivés pour s'installer à l'accouchement, je lui dis, écoute, il se peut qu'on ait besoin d'une ventouse. Non, mais le truc, j'avais pas encore commencé à pousser, que je l'avais déjà prévenu.
Oh, écoute, l'anticipation.
Je pense qu'on peut avoir besoin d'une ventouse. Tu t'inquiètes pas, quand elle va, quand elle dit elle, mais je savais pas que c'était une petite fille, quand le bébé va sortir, peut-être que s'il y a besoin d'une ventouse, il y aura une petite bosse sur la tête. Tu t'inquiètes pas, c'est normal, ça va partir super vite.
Non, c'est adorable.
C'est et on a eu besoin d'une ventouse, tu vois.
C'était prémonitoire.
Et en fait, quand ma collègue m'a dit, bon, écoute, Noémie, je suis obligée d'appeler gynéco parce que là, il y a besoin d'une ventouse. Je le savais.
Mais je m'en doutais.
Et donc, ça m'a pas du tout stressée, en fait, parce que je sais ce que c'est et j'avais préparé Damien, tu vois, avant.
Il était briefé. Non, mais c'est la situation parfaite, quoi. Il n'y a pas de malaise possible. Il est obligé de se tenir bien, là.
Mais il a assuré, il n'y a pas eu de problème.
Oh, bon, bah, c'est super. Bon, bah écoute, Noémie, merci beaucoup pour toute cette explication de ton travail. Puis on sent que tu l'exerces avec passion, donc c'est un plaisir de t'entendre parler de tout ça. on va finir cette conversation avec un petit portrait chinois. Ouais. Donc, j'ai quelques questions à te poser. La première question, si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique ?
Être à deux endroits en même temps.
Ah ouais.
Ce serait tellement bien.
Parce le don d'ubiquité.
Voilà, des fois, quand on a une charge de travail super importante, qu'on a plein de dames en travail et plein de coups de téléphone et plein de trucs à gérer, d'être partout à la fois, ce serait cool. Ça me ferait gagner du temps. Voilà, ça, c'est bien. Je sens des fois, quand tu as une charge de travail énorme, tu dis, mais tu as toutes les dames qui t'appellent, tu sens que tu aimerais te diviser en deux, en fait.
Oh là là, si seulement.
Ce serait très, très, très bien.
Bon, ça va un peu en lien avec ce que tu disais sur les difficultés du métier. Ouais. Si on pouvait se dupliquer, ça serait pas mal.
Ouais.
Ensuite, la phrase que tu prononces le plus dans ton métier.
À quel terme êtes-vous ? Ou quand est-ce que votre terme est prévu ? C'est prévu pour quand ? Le terme. Je pense que c'est le truc qu'on demande pendant la grossesse, pendant les consultations, quand elles viennent en consultation d'urgence, à l'accouchement, même après l'accouchement, votre bébé il est né à terme. Enfin, le terme, c'est
l'info numéro un.
C'est l'info numéro un, effectivement. C'est presque la première chose que tu demandes quand quelqu'un vient ou quelqu'un t'appelle. Vous êtes à quel terme ? Voilà.
Alors, mesdames, si vous êtes en plein dans une grossesse, retenez votre terme, c'est important.
C'est important.
Question suivante, si tu étais un médicament.
Un médicament qu'on utilise très souvent, alors du nom commercial, ce qu'on dit le synto, pour réduire, c'est le syntocinon, et c'est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est donc déjà de base, c'est une hormone que le corps produit naturellement, en fait, pour donner les contractions. Hein, et nous, on l'a de manière médicamenteuse pour justement soit donner des contractions quand on veut déclencher un travail, ou à l'inverse, un travail qui avance pas trop, hop, une petite perf d'ocytocine, ou à l'inverse, les hémorragies post-accouchement, on veut que tu se contracte, hop, de l'ocytocine.
Oh là là, c'est le couteau suisse de la sage-femme.
Voilà, l'ocytocine, le synto, comme on dit en réduit, c'est le médicament phare de l'obstétrique et c'est, je pense, un des premiers médicaments qu'on apprend à préparer en tant qu'étudiant de sage-femme. Quoi.
Ah oui, d'accord. Bon. Question suivante, plutôt thé ou café ?
Thé.
Jamais.
Carrément.
Ouais, jamais.
Jamais, je n'ai jamais bu de café, je crois.
Dis donc, même pendant les nuits de garde interminables.
Un bon thé noir, c'est mon truc préféré, mais avec la tisane d'allaitement maintenant, depuis 16 mois. Mais non, le thé, 100%.
Ensuite, plutôt Crocs ou basket?
Ah, team basket. Ah, jamais ouais. Crocs. Ah ouais, non. Ah, non, les baskets, c'est super confortable. J'ai converti plusieurs collègues qui avaient des Crocs ou des sabots. Je leur disais, mais prends des baskets. Et maintenant, effectivement, c'est encore plus vite.
On peut marcher à reculons.
Exactement. Non, c'est team basket depuis que je suis étudiante. Tout
ah, très bien. Ouais. Et la dernière question, plutôt 10 ans dans le même service ou 10 services en un an, ou 10 lieux d'exercice?
Ouais, eh ben, 10 ans dans le même service, parce que là, ça va arriver où je suis à presque 8 ans dans le même, dans la même maternité. Donc, ouais, je me vois encore plus dans cette maternité, peut-être jusqu'à la fin, je ne sais pas.
Oh là là.
Mais non, ça me convient bien d'être au même endroit pour le moment.
Noémie, merci beaucoup pour... ce moment avec moi, et donc quelques heures avant le début de ta garde.
Mais oui, on va retourner travailler ce soir.
Dis donc. Alors, pour ceux qui veulent savoir comment travailler efficacement de nuit sans se fatiguer, ou en tout cas en récupérant au mieux, il y a un épisode de podcast qui est dédié au travail de nuit. Mmh. Donc ça peut aider ces personnes-là, parce que voilà, par expérience aussi, je sais que c'est compliqué.
Ouais.
Donc merci beaucoup d'avoir dégagé une heure de ton temps comme ça pour cette petite conversation. C'était très agréable.
C'est avec plaisir, en tout cas.
Bon, bah génial. Et puis je t'embrasse et je mets toutes tes infos du coup, un hein, blog, etc., chaîne YouTube en description du podcast.
Ok, super.
Et puis voilà, merci beaucoup Noémie, à bientôt.
Merci Marielle, à bientôt.
J'espère que cette conversation avec Noémie vous aura permis d'en savoir plus sur le métier de sage-femme. Concernant le petit fond sonore au milieu de l'épisode, il est dû aux agents d'entretien de ma ville qui venaient ramasser la quantité incroyable de feuilles mortes situées dans ma rue. Ce sont malheureusement les aléas de l'enregistrement fait maison. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau partage d'expérience. À très bientôt !